Bonjour à tous, vous êtes dans l'After Turquie, la Turquie qui va disputer le troisième mondial de son histoire. On en parle sur RMC bien sûr.
RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes.
Karine Galli.
Bonjour à tous, aujourd'hui place à la Turquie qui va jouer la Coupe du Monde, la troisième de son histoire. On va en parler avec nos invités. Nous avons Cenk Ergün qui est l'ancien directeur sportif de Galatasaray et Efe Erat, journaliste, cofondateur d'ActuFoot Turquie. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Karine, merci pour l'accueil.
Merci.
Messieurs, on va parler de la Turquie qui va donc participer à sa troisième Coupe du Monde. Elle ne l'avait plus jouée depuis 2002. À l'époque, c'est évidemment la meilleure perf de la Turquie. La Turquie avait terminé troisième de la Coupe du Monde 2002. Et on va revenir sur le parcours, évidemment, pour arriver à cette Coupe du Monde 2026. La Turquie a fini deuxième de son groupe, dans un groupe relevé derrière l'Espagne, avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. Il y a eu notamment cette lourde défaite 6-0 face à l'Aurora. Donc, la Turquie a dû passer par les barrages en mars dernier. Elle a battu la Roumanie, puis le Kosovo. Et donc, du 11 juin au 19 juillet, aux USA, au Mexique et au Canada, la Turquie fera partie des 48 nations qualifiées pour ce mondial. On rappelle également que lors du dernier Euro, il y avait eu une place de quart de finale face aux Pays-Bas. La Turquie avait été éliminée par les Néerlandais. On va parler, messieurs, de l'architecte de cette sélection. C'est Vincenzo Montella, un Italien à la tête de la Turquie depuis septembre 2023. Je me tourne vers vous en premier, Cenk. Est-ce que c'est l'homme de la situation, Montella? On sait qu'il avait terminé sa carrière d'entraîneur en Turquie. Il est devenu depuis donc sélectionneur du pays. Est-ce que c'est un bon choix?
Je pense que c'est un bon choix. Parce que Vincenzo Montella, après avoir venu en Turquie avec Adana Demirspor, il a fait très bonne saison, enfin deux saisons. Et puis on a vu qu'il touche aux joueurs. Et des joueurs qui ont commencé à travailler avec lui, ils ont amélioré. Et chez nous, ce n'est pas facile de trouver ce type d'entraîneurs en foot turc. Et puis quand on a choisi Vincenzo Montella comme le sélectionneur de l'équipe nationale, je l'ai vu toutes les parts, à Istanbul, à Konya, à Adana, toujours il est en train de regarder des matchs, même aussi en Europe, parce qu'on a une génération qui on avait beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, de Portugal en Italie, de l'Allemagne à d'autres parts, et il est toujours avec ses joueurs, il parle, il regarde, et il est avec, dans l'entraînement avec eux. Je pense qu'il est maintenant le meilleur choix pour l'équipe nationale.
Effet, l'attente fut longue, on le rappelle, hein, 2002, la dernière Coupe du Monde, c'était une anomalie de ne plus voir la Turquie lors d'un mondial. Ça sera le cas cet été. Montella a fait plutôt des bonnes qualifications, parce qu'être battu par l'Espagne, ça arrive quand même à énormément de nations.
Tout à fait, c'est vrai que cette lourde défaite a beaucoup marqué les esprits. Mine de rien, je rappelle quand même qu'au match retour, on a fait un partout en Espagne, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est vrai que malgré un parcours peut-être un peu, on va dire, en demi-teinte, je pense au match de qualification contre la Roumanie et le Kosovo, c'est des petites victoires, c'est pas en grande pompe, mais l'essentiel est là. Donc on a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente. Et pour moi, Montella a apporté beaucoup de modernité, de la discipline en fait à cette équipe qui jusqu'à maintenant était vraiment assez désorganisée, je trouve. Et donc pour moi, c'est effectivement là, il y a un système qui commence à se faire en place, qui est intéressant. Et donc il faudrait continuer en fait dans cette lancée.
Vincenzo Montella, donc, qui va amener la Turquie à cette Coupe du Monde. On va faire des focus sur certains joueurs. Messieurs, il y a évidemment des joueurs que tout le monde connaît en Europe. On va commencer avec le taulier, le capitaine Çalhanoğlu, lui qui évolue à l'Inter Milan. 32 ans, 104 sélections. Dans quel état arrive-t-il pour ce mondial? Parce que c'est vrai qu'il a été plusieurs fois blessé cette saison, touché notamment au mollet. Est-ce que vous pouvez nous parler de son rôle qui est évidemment très important au milieu de terrain? C'est lui qui organise un petit peu tout hein, dans la sélection turque sur le terrain.
Alors, tu as raison. Fais, tu parles.
Pardon, je vais y aller, Jan. Pas de souci.
D'accord. Et il y a deux semaines, on s'est rencontré avec Montella à Rome. Il y avait un match entre Rome et Fiorentina. On avait parlé sur des joueurs avec lui. Et il était très concerné avec la situation actuelle de Hakan Çalhanoğlu. Parce qu'il est le joueur le plus important maintenant. Il est le maestro, il est le capitaine, il est le joueur plus expérimenté. français. Le joueur élu pour l'équipe nationale. On a des temps parce que dès maintenant, dès aujourd'hui, l'équipe nationale va commencer à s'entraîner. Et après avoir terminé la saison, tout le monde va venir. Et le jeudi prochain, on va commencer le match. Et il est le joueur le plus important pour le championnat.
Effet, c'est une légende, évidemment, notamment du football turc. C'est l'un des joueurs les plus capés. Il aura un rôle primordial. Est-ce que si Çalhanoğlu va bien, la Turquie va bien ?
De leader dans le vestiaire, il apporte vraiment, on va dire, une sérénité à cette équipe. Beaucoup d'équilibre aussi. C'est vrai qu'il a beaucoup été critiqué parce qu'il n'arrive pas à produire la même créativité qu'il a à l'Inter en sélection. Depuis que Montella l'a replacé en numéro 6, en véritable régista, ça va beaucoup mieux. Et donc, je pense que l'équipe nationale dépend beaucoup de notre capitaine. Et sans lui, ce sera très difficile de faire une bonne performance.
Au niveau de la Turquie, il y a des joueurs très expérimentés, il y a aussi des joueurs très jeunes. On va rester pour l'instant sur les joueurs expérimentés. Le gardien de but qui a 30 ans, qui évolue à Galatasaray. Je ne sais pas si je prononce bien. Çakır, c'est comme ça qu'on dit, Cenk ?
C'est Çakır.
Çakır. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Parce que c'est vrai qu'il a un certain âge, mais pourtant, il n'a pas forcément énormément de vécu lors de grandes compétitions. Parce qu'on l'a dit, ça fait longtemps que la Turquie n'a pas joué la Coupe du Monde. Et il avait été le gardien lors d'un Euro qui s'était mal passé, où la Turquie n'avait pas pu sortir des poules.
J'y vais ou je laisse Cenk
en parler.
Oui. Allez, donc Gürkan Çakır, c'est un gardien qui, en fait, toute sa carrière a évolué en Turquie à Trabzonspor. Et donc, malheureusement, il n'a pas eu l'exposition d'un gardien turc qui a joué dans les grands clubs d'Istanbul ou en Europe. En revanche, il sort d'une très très bonne saison à Galatasaray, un gros transfert d'ailleurs qui justifie tout à fait son niveau. Pour moi, aujourd'hui, il apporte certes une expérience dans cette équipe parce qu'il connaît le contexte turc, il connaît les joueurs et aussi c'est un gardien qui a montré qu'il était très bon sur sa ligne. Donc pour moi, la performance de 2016 n'est pas du tout significative. Depuis, il s'est beaucoup amélioré, il a beaucoup progressé et donc je pense qu'avec Urjan, on s'apprête à avoir, on va dire, une bonne ligne défensive.
Cenk, effectivement, Galatasaray a fait une belle saison. Il y a eu le titre de champion de Turquie. Il est attendu, c'est très important d'avoir un gardien de haut niveau. La Turquie l'a trouvé et compte sur lui pour ce mondial.
Et tu as raison, Karine, parce que au commencement de la saison, où Cenk assistait à se déplacer de son équipe de Trabzonspor. Il était le capitaine, il avait gagné le championnat, mais il a voulu un transfert et il est venu à Galatasaray. Parce que dans sa tête, parce que je le connais très bien aussi, je connais le président et la direction de Galatasaray aussi, c'était une stratégie pour mettre Urjan Çakır au niveau de Ligue des Champions pour être prêt pour la Coupe mondiale. Parce qu'il voulait jouer avec Galatasaray dans un autre niveau. Et on a vu que, comme tu avais dit, Galatasaray a gagné le championnat. Je pense que il était le joueur le plus important, même plus que Victor Osimhen cette année pour Galatasaray.
Il va donc être le gardien titulaire lors de ce mondial. On a parlé de trentenaire, on va parler de la jeunesse, parce qu'il y a évidemment de la jeunesse avec beaucoup de talent du côté de la Turquie. On va parler des deux plus connus en Europe, c'est évidemment Arda Güler et Kenan İdiliz. On va parler d'abord d'Arda Güler, c'est le joueur du Real Madrid, 21 ans. 28 sélections et 6 buts. Il a notamment marqué le but face à la Roumanie. On rappelle que c'était pour arriver jusqu'à ce mondial. Il y a eu la victoire 1-0 face à la Roumanie et la victoire 1-0 face au Kosovo. Est-ce que finalement, Cenk, vu qu'en plus c'est un joueur qui évolue au Real Madrid, c'est lui la star, le renouveau de l'équipe de Turquie, même si on n'enlève évidemment pas l'importance de Çalhanoğlu, le capitaine, le taulier.
Non, tu as raison. Parce qu'il est, comme les Italiens disent, c'est comme le regista. Il contrôle le jeu et offensivement, et il est le joueur le plus fort de la Turquie techniquement. Et aussi, les dernières deux années, il a commencé à prendre le statut, le technique et la stratégie de l'équipe et du foot européen. Et la Turquie, c'est une équipe qui joue pas avec un vrai attaquant. C'est pour cela l'importance de Arda Güler, ça augmente. Et il est le joueur qui peut contrôler toutes les actions offensives. Et il sera le star de l'équipe de la Turquie.
Effet Arda Güler, c'est vrai qu'il attire tous les projecteurs vers lui parce qu'il est extrêmement talentueux, parce qu'il est technique, parce qu'il joue au Real Madrid, parce qu'il est très jeune. Donc on attend énormément de lui. Ça va être sa première Coupe du Monde. Il a beaucoup de pression.
J'imagine que oui, c'était déjà le cas à l'Euro 2021. Arda Güler, on a beaucoup d'espoir en lui, nous en tant que diaspora, en tant que Turc, et aussi par sa saison qu'il a fait au Real Madrid, sorti d'une bonne saison, malgré une saison blanche au Real Madrid, il a montré de très bonnes choses. Et je pense que c'est vraiment, on va dire, un point factoriel. C'est un joueur qui peut faire basculer un match à lui seul. Il l'a montré à l'Euro contre la Géorgie. Il l'a montré également lors des phases de qualification. Donc c'est vraiment un joueur qui peut changer le cours d'un match à lui seul. Et son talent parle de lui-même, en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la star numéro un de cette équipe.
La jeunesse qui prend le pouvoir dans la sélection turque. On a parlé d'Arda Güler. On va partir direction l'Italie avec le joueur de la Juventus. C'est Kenan Yıldız. Lui aussi, il a 21 ans. Lui aussi, il est pétri de talent. Et ça sera également l'un des facteurs X de ce mondial pour les Turcs. Cenk, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle qu'il a dans la sélection?
Sûrement. On avait parlé de Arda, c'est un joueur qui fait jouer tous les autres. Mais Kenan, il a un autre rôle, il est direct. Il prend le ballon et va directement à faire le but. Et c'est un joueur énormément fort et c'est un joueur très important aussi pour la Juve. Il a signé le nouveau contrat aussi. Et la seule chose qui est dans sa tête est faire le but. Et c'est pour cela, c'est comme Barış Alper Yılmaz, l'autre joueur de l'équipe nationale. Mais Kenan Yıldız, il a fait une très bonne saison. Il a eu quelques petites blessures, mais je pense qu'il va être prêt pour le championnat. Il est aussi un joueur qui peut changer tout seul le match.
Vous venez d'en parler, on va un petit peu développer sur le joueur qui pourrait se révéler lors de cette Coupe du Monde. Vous venez de le citer, c'est Barış Alper Yılmaz. Il évolue également au pays, à Galatasaray. Il a 26 ans, 33 sélections. Il peut être le facteur X de cette équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Effet, pour ceux qui le connaîtraient pas forcément très bien?
Oui, bien sûr. Donc, Barış Alper, c'est un joueur qui est très polyvalent. Il peut évoluer à beaucoup de postes différents, en pointe, comme sur l'aile droite, qui est son rôle privilégié, ou même en tant que piston, ça a déjà été fait. Barış Alper apporte vraiment un profil assez atypique chez nous, les Turcs. Il a un profil qui est très physique, un véritable monstre, en fait. Ce qui fait que, il harcèle les défenses, il est vraiment constamment en activité, tout le temps en mouvement. Cette force physique, elle peut, je pense, permettre de débloquer des matchs aussi, dans la mesure où on peut récupérer un ballon adverse de manière assez anecdotique. Et donc, Barış Alper, pour moi, devrait se placer dans ce 11 monté là, sur l'aile droite, et assumer ce rôle de véritable ailier, en fait, qui va venir dynamiter les défenses adverses.
Cenk, effectivement, physiquement, il est assez impressionnant, il harcèle les défenses, il a une polyvalence qui est très recherchée. Vous misez sur lui, notamment pour ce mondial, ça pourrait être l'une des bonnes surprises?
Oui, ça peut être une bonne surprise, j'imagine. Je m'en souviens très bien, le dernier match de la Turquie contre Pays-Bas en Euro, et il avait une grande rivalité contre Van Dijk. Même lui, il avait dit après le match, il était très fort. Et la chose que je peux dire négative pour Barış Alper, il devrait aussi se déplacer en Europe après l'Euro. Il a resté en Turquie, mais tout à fait, il est physiquement très fort. Et Montel peut le mettre où il veut. Et il est l'un des joueurs les plus importants qui peut garder le ballon dans la phase d'attaque.
Vous suivez l'After Turquie sur RMC avec Cenk Ergün, l'ancien directeur sportif de Galatasaray, et Efe Erhat, journaliste, cofondateur d'Actu Foot Turquie. Vous suivez l'After Turquie sur RMC, on parle de la Turquie qui va donc jouer sa troisième Coupe du Monde avec Cenk Ergün, qui est l'ancien directeur sportif de Galatasaray, et Efe Erhat, journaliste, cofondateur d'Actu Foot Turquie. On passe évidemment en détail sur les différents joueurs de cette nation qui va donc disputer son troisième mondial. La dernière fois, c'était en 2002, donc il y a énormément d'attentes. Messieurs, on va parler des points forts et des points faibles de la sélection qui est dirigée par Montella. Quel est le point fort selon vous, Efe?
Pour moi, c'est sans conteste le milieu de terrain ainsi que notre attaque. On a un des milieux de terrain les plus polyvalents au monde, les plus complets, pour reprendre le président de l'UEFA qui l'a dit il y a quelques jours. Ce qui pourrait pêcher, en revanche, c'est notre défense, ligne défensive, et l'absence, comme l'a dit Cenk Bey, d'un véritable numéro 9 dans cette équipe. On n'a pas de véritable buteur. Tandis que sur les ailes et dans l'axe, on est vraiment très très bon. Donc ça pourrait nous poser problème, effectivement.
Cenk, effectivement, c'est ce milieu de terrain qui vous paraît être un milieu de terrain complet, un milieu de terrain qui peut faire le lien entre la défense et le secteur offensif.
Oui, oui. Et maintenant, je suis en train de le garder, c'est l'équipe. On a aussi Orkun Kökçü, qui a fait une très bonne saison chez Beşiktaş. Il peut être aussi un joueur très bien avec İsmail Yüksek. Il peut jouer très bien avec Çalhanoğlu, mais le plus grand problème, c'est le jouer avec... on ne peut pas jouer avec un vrai attaquant. C'est pour cela, de temps en temps, Montella doit se déplacer à Barış pour garder le ballon un petit peu. Et comme Efe a dit, cette instabilité dans les lignes de défense peut être un peu problématique parce qu'on a oui, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, on a aussi Ozan Kabak, mais on a perdu la performance de Çağlar Söyüncü. Ferdi Kadıoğlu joue une très bonne saison, même aussi en Premier League, mais vraiment, il n'est pas un... joueur défensif. Zeki Çelik, il est en train de faire une très bonne saison là-bas, à Rome. Et on a une équipe jeune, on a une équipe expérimentée, mais jouer un tournoi, ça serait, on va voir. Parce que comme tu avais dit, après 22 ans, 24 ans, on participe à une Coupe mondiale, ça sera une autre histoire.
24 ans d'attente, effectivement, pour la Turquie, une équipe jeune, mais qui a aussi quand même de l'expérience. Vous en avez parlé du point faible, messieurs, il y en a peut-être plusieurs, mais c'est vrai qu'il y a un manque de vrais attaquants, il n'y a pas de vrais neufs. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres nations, mais c'est quand même l'un des soucis majeurs de la Turquie. Montella doit se débrouiller sans véritable neuf.
Malheureusement, oui. On joue actuellement avec Kerem en pointe. Kerem est un ailier de formation, donc ce n'est pas non plus son poste dans lequel il est le meilleur. On a des petits jeunes qui émergent. Je pense à Deniz Gül, je pense à Can Uzun qui peut éventuellement jouer à ce poste. Maintenant, c'est vrai que faire jouer les 6 jeunes joueurs à un poste aussi important dans une Coupe du Monde, ce n'est pas du tout le moment. Et donc, malheureusement, on va avoir composé avec cette absence de véritable numéro 9. Et c'est pour moi le plus grand problème de la sélection.
Cenk, il y a un problème avec cette absence de vrais attaquants. Il y a aussi peut-être à regarder au niveau de la ligne arrière. Défensivement, la Turquie a des joueurs qui sont un peu friables, un peu lents. Est-ce que ça, c'est l'un des motifs d'inquiétude du côté des Turcs?
Oui, parce que nos défenseurs centraux, il y a eu beaucoup de problèmes sur l'absence pendant la saison. Mais en ce position, j'imagine que Urcan Çakır, comme gardien de but, qui a assez d'expérience, et va aider ses co-occupeurs. Mais comme Efe a dit, comme j'avais dit, si on peut dire le point le plus faible, c'est l'absence d'un attaquant, enfin, un vrai attaquant.
Un vrai attaquant qui sera donc pas présent lors de ce mondial. On va continuer à faire découvrir certains joueurs. Les Turcs les connaissent forcément très bien, mais certains amateurs de foot ne les connaissent pas aussi bien que vous et n'ont pas forcément suivi avec attention leur saison. Il y a un joueur que vous vouliez mettre en avant également. Efe, c'est un joueur qui sort d'une très bonne saison à Brighton en Premier League. C'est Ferdi. Je vous laisse prononcer son nom parce que je le prononce pas très bien, vous m'avez dit.
C'est ça. Ferdi Kadıoğlu. Il sort d'une très très bonne saison à Brighton. Il a été blessé la saison passée, mais cette année, il s'est vraiment révélé en Premier League. C'est vraiment un latéral ultra moderne, très rapide, très puissant. Mais comme l'a dit Cenk Bey, malheureusement, son profil n'est pas très défensif. Il apporte beaucoup en attaque, il apporte beaucoup en transition. En revanche, cette absence de solidité en défense peut aussi pêcher pour notre sélection qui souffre déjà d'un déséquilibre structurel assez important. Mais on a beaucoup d'espoir également en Ferdi Kadıoğlu, je pense. Son but qui nous a permis de nous qualifier contre le Kosovo ou à d'autres actions qu'il a pu faire au cours de la saison qui sont vraiment révélatrices de son niveau.
Cenk, un mot à rajouter sur ce joueur qui évolue en Premier League?
C'est un joueur très important. Enfin, il est venu chez Fenerbahçe des Pays-Bas. Il avait fait très bonne saison là-bas aussi avec Nakhni Meghan. Mais comme Efe a dit, il est un vrai attaquant et il peut avoir des petits problèmes, des petits soucis contre des vrais alliés. Mais tu sais, c'est la chose de plus importante de cette équipe, c'est l'énergie, c'est la jeunesse. Et même il prend des goals avec les jeunes, c'est l'énergie. Et la Turquie n'accepte pas de perdre facilement. Et ils ont des talents, ils ont des joueurs, ils ont des co-occupeurs qui peuvent aider les autres pour améliorer la situation. C'est un peu la chose le plus important pendant un championnat parce que, comme tu sais, jouer dans la Coupe du Monde, jouer 3 matchs dans 10 jours, ce n'est pas facile. On va avoir des problèmes aussi pendant le championnat parce qu'après avoir terminé une saison très longue pour des joueurs, ce n'est pas facile de jouer des joueurs avec toute intensité, mais ça serait très important aussi des joueurs qui ont le premier choix, mais qui peuvent jouer pendant le championnat.
Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous voulez mettre en avant, en lumière, dans ce podcast After Turkey?
Je pense à Ismail Yüksek, qui apporte vraiment beaucoup d'équilibre au milieu de terrain. Il sort d'une bonne saison à Fenerbahçe, aux côtés de Hakan. Il apporte vraiment cette transition entre la défense et l'attaque. C'est un poumon, hein. Arda Güler l'appelle Artapot de son époque à Fenerbahçe, donc la pieuvre pour, en français, pardon. Ismail Yüksek apporte beaucoup de physique aussi, de rigueur à ce milieu de terrain. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt ici à Lyon, du côté de Marseille, du côté du top 5 européen. Ce qui fait que pour moi, c'est un joueur qui est important. Mais comme l'a dit Jack Bay, dans un match où on a vocation à être plus offensif, on peut le remplacer par Orkun Kökçü, qui sort d'une très bonne saison à Beşiktaş et qui peut apporter plus de, on va dire, de verticalité dans ce jeu.
Vous venez de parler là de Orkun Kökçü, qui a été élu MVP, hein, c'est ça, après sa bonne saison à Beşiktaş. Un mot également sur ces deux joueurs mis en lumière par Efe.
Oui, Efe a dit tout sur Ismail Yüksek. Et aussi, je veux parler aussi de Ozan Kabak, parce que je le connais très bien. Il était mon joueur quand j'étais à Galatasaray. Et puis, avant le championnat de l'Euro, il a eu une blessure grave. Il n'a pas pu jouer pendant 1 an et demi. Mais il est revenu à Bundesliga. Il a fait très bonne chose avec Hoffenheim. Il peut participer au même le Champions. Il va être prêt aussi comme le troisième défenseur central si on a besoin de jouer.
Messieurs, on va regarder le programme de la Turquie lors de cette Coupe du Monde. On le rappelle que vous la suivrez en intégralité sur RMC, Radio Officielle du Mondial, du 11 juin au 19 juillet. La Turquie, donc, qui a évidemment 3 adversaires. Ça commencera avec l'Australie le 14 juin. Puis, il y aura le Paraguay le 20 juin. Et l'un des 3 pays hôtes, ça sera face aux États-Unis le 25 juin. Messieurs, quel est l'objectif de la Turquie dans cette Coupe du Monde? Quand on voit l'adversité lors de la phase de groupe, la Turquie se doit de sortir de ce groupe, sinon ça serait une énorme désillusion.
Tu as raison. Après le tirage au sort, tout le monde a dit qu'on a déjà qualifié. Et je sais que dans le foot, on ne peut pas parler comme ça, mais les gens, le peuple ici, et tout le monde attend que la Turquie passe comme le premier ou comme le deuxième de ce groupe. S'il ne pas se qualifier, ça serait une catastrophe et ça va changer beaucoup de choses dans l'équipe nationale.
Efe, est-ce que la Turquie est favorite de ce groupe quand on voit les nations qui sont les adversaires de la Turquie, l'Australie, le Paraguay, les États-Unis? Il n'y a pas une nation vraiment qui se dégage?
Alors pour moi, intrinsèquement, si on prend vraiment chaque sélection individuellement, pour moi la Turquie est clairement la meilleure sur le papier, il n'y a pas de débat. En revanche, le contexte fait qu'on est aux États-Unis et que les États-Unis peuvent avoir un engouement à domicile qui sera peut-être important, ce qui pourrait éventuellement nous placer sur le papier à la deuxième place. Mais pour moi, la Turquie se doit d'être première de ce groupe, sans conteste. Je pense que ce n'est pas des matchs faciles, évidemment, notamment contre l'Australie. Ce sera très difficile de jouer à Vancouver dans un climat qui sera super chaud. Mais malgré tout, notre sélection se doit d'être première de ce groupe.
24 ans d'attente, on l'a dit, hein, depuis que la Turquie attendait de rejouer une Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça serait une Coupe du Monde réussie pour la Turquie, messieurs, avant de se quitter? Quel est l'objectif affiché par la sélection turque, Cenk?
Et je pense que si la Turquie peut jouer au quart de finale, au semi-finale, ça serait superbe pour la Turquie. Et quand on arrive à semi-finale, pourquoi pas finale? Pourquoi pas gagner. Mais ça ne sera pas facile parce que ce serait la première fois cette équipe qui est dans la Coupe du Monde. Ce n'est pas comme l'Euro. On ne sait pas vraiment comment jouer contre nous, Australie, Paraguay ou des autres équipes qui viennent de différentes parts du monde. Ça sera un challenge pour la Turquie. Mais c'est comme j'avais dit, tout le monde en Turquie attend au moins un quart de finale ou semi-finale de cette équipe.
Il y a un engouement énorme, il y a une pression également, évidemment, sur cette sélection turque. Et fait, pour vous, si Montella réussit sa mission, ça serait quoi le minimum acceptable ?
Je pense, un peu à la manière de Jack Bay, déjà sortir des phases de poule, c'est le minimum. Je pense que cette équipe a le potentiel d'aller jusqu'en demi-finale. Ça va pas être facile. Il y a beaucoup de projections qui ont été faites avec différentes possibilités en sortie de groupe, mais mine de rien, le parcours reste assez accessible pour nous, au moins jusqu'en quart de finale, je pense. Donc minimum quart de finale, et je pense que la Turquie a toutes les cartes en main pour viser un carré final. Et en tout cas, je l'espère de tout mon cœur.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de l'After Turquie. On rappelle Cenk Ergun, ancien directeur sportif de Galatasaray et Efe Erhat, journaliste, cofondateur d'Actu Foot Turquie. Je vous souhaite évidemment une belle Coupe du Monde en suivant la Turquie. Merci à tous les deux.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.